Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Julien Charpentier.
Salut Stéphane, bonjour à tous.
Salut Julien. Et nous allons parler d'un film que tu as choisi, qui est un thriller d'action, très populaire, en tout cas en son temps. Je pense qu'il y a quand même encore une aura, le film aujourd'hui. En tout cas, c'était un très très gros projet pour Warner et ce qu'on appelle un sleeper hit à l'époque où il est sorti, c'était l'adaptation au cinéma de la série télévisée Le Fugitif.
En effet.
Voilà, par Andrew Davis.
L'un des plus grands réalisateurs du monde, puisqu'il a réalisé un des plus grands films avec Citizen Kane de l'histoire du cinéma, j'ai nommé Piège en haute mer.
Piège en haute mer, voilà. Heureusement que tu as cité celui-là et pas, je sais pas, Poursuite.
J'hésitais avec Poursuite et Nico. Ouais. Parce qu'il a quand même.
Ah, Nico, c'est bien. Nico, c'est pas mal.
Mais tout ça, c'est bien.
Ouais.
Poursuite. C'est pas mal le problème.
Ouais. Bref. Le Fugitif, pardon. Alors, avec Harrison Ford, 1993. Déjà, je peux te laisser pitcher le film. Bon, je pense que la plupart des gens savent ce que c'est, mais en fait, il y a un point qui est assez intéressant, je pense. En fait.
Alors, c'est un, donc, comme tu l'as dit, adapté d'une série télé. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était la grosse mode. Donc, d'ailleurs, il a initié cette grosse mode, je crois.
Oui, tu avais quelques. Non, tu avais quand même, par exemple, est-ce que ça compte aux États-Unis, ça compte en tout cas. Tu avais la famille Adams, c'est ce genre de choses.
Tu avais eu la famille Adams un peu avant, et puis alors après, tu en as eu.
Oh oui, des tonnes.
Des tonnes à plus savoir qu'en faire, dont le plus fameux est Mission Impossible, puisqu'il est encore là aujourd'hui.
Évidemment.
Mais tu avais eu. Le Saint, t'avais eu Mod Squad, t'avais eu Charlie et ses drôles de dames, t'avais eu, j'en oublie plein.
Chapeau en melon et bottes de cuir.
Le fabuleux Chapeau en melon et bottes de cuir. Film ovni absolument incroyable.
Non mais oui, il y avait comment ça s'appelle, Starsky Hutch dans les années 2000.
Starsky Hutch dans les années 2000. Enfin, il y en a eu vraiment pléthore de chez pléthore. Et donc, l'adaptation de cette série télé, c'est l'histoire du docteur Richard Kimble, qui est un chirurgien qui, un jour, se retrouve accusé du meurtre de sa femme. Il est innocent, c'est pas caché du tout, c'est dit dès le départ, il est innocent. Il est cependant condamné à mort, il réussit à s'échapper, et une traque commence pour le retrouver. Mais ce qui devient extrêmement intéressant, c'est que c'est pas une traque, c'est une double traque. Double traque, puisque Harrison Ford, lui, veut trouver un manchot qu'il a vu au moment où sa femme est assassinée. Donc lui, veut trouver la vérité et savoir qui est ce manchot. Et pendant ce temps, son poursuivant, un marshal appelé Samuel Gérard, va essayer, lui, d'attraper Harrison Ford.
Donc là, c'était clairement le pitch du film. C'est-à-dire que voilà, parce que la série, il faut savoir que c'était une très très grosse série aux États-Unis dans les années 60. Hein. Je crois que ça a duré des années, 6 ou 7 ans. Hein,
quelque chose comme ça.
Voilà, avec 120 épisodes. Donc en fait, là, c'est même pas que c'est condensé, c'est qu'en fait, je pense que le point de départ est pris en compte. Et après, ils ont fait leur propre truc. Ce qui est aussi intéressant avec ce projet-là, c'est qu'il est écrit par Jeb Stuart, qui est l'un des scénaristes du premier Die Hard. Mm-hmm. Et on retrouve, on va dire, moi, je trouve quelque chose de similaire là-dedans. Pas forcément, je ne parle pas de la qualité finale du film, mais dans l'approche, qui est l'idée en fait, de créer un personnage de héros d'action, mais à visage humain. Ce qui était clairement nouveau à l'époque de Die Hard. Un peu moins avec Le Fugitif, parce que c'était aussi quand même ce qui faisait un peu la réputation d'Harrison Ford, hors les Indiana Jones, par exemple. Mais voilà, il y a une approche qui est intéressante, parce qu'il y a une idée de traiter au maximum en fait, le thriller de façon réaliste, quoi. C'est-à-dire à échelle humaine.
À échelle humaine et en même temps d'avoir un héros d'action, parce que ça reste un film d'action, un thriller, mais un héros d'action qui s'en sort avec sa tête, comme John McClane en fait. Ce sont pas des super-héros, ce sont pas des gens. Enfin, ils sont quand même, ils se sortent de situations, je suis pas sûr que toi et moi on s'en sortirait, mais globalement ils s'en sortent avec sa tête. Richard Kimble fait une vraie enquête au cours du film, il essaie de comprendre, et vu qu'il est médecin, il fait pas une enquête policière. Il fait une enquête à travers ce qu'il connaît, la médecine. Moi je trouve ça plutôt bien vu.
C'est un des trucs qui est intéressant, justement, je pense, et qui, à mon avis, valide le succès du film. C'est-à-dire que En gros, à l'époque où le film est sorti, il y avait une mode du thriller, hein, on va dire, si tu veux. Et les thrillers, c'était généralement, il y avait un angle, un axe. C'est le film ne s'accroche, on va plus volontiers le comparer entre guillemets à Die Hard, hein, qui a des thrillers comme Sans chaud pour meurtre de sang froid ou ce genre de film en fait qui pouvait sortir à l'époque mais qui était très populaire, tu vois, et qui en fait avait une espèce d'approche hitchcockienne en fait du sujet du genre quoi, et qu'il traitait sous un angle spécifique, c'est-à-dire que par exemple c'était dans Sans chaud pour meurtre de sang froid c'est la psychiatrie, dans Basic Instinct tu vois si tu veux c'était voilà il y avait c'était un sex thriller, donc il y avait eu un angle, une approche et du coup une enquête généralement. Et là, en fait, c'est, je pense, la double enquête qui fait que d'un seul coup, on se retrouve vraiment avec une espèce de suspense pur, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le film ne fonctionne vraiment, pour moi, à mon sens, que comme ça. C'est-à-dire que c'est un divertissement. C'est-à-dire, on peut pas vraiment, on peut, c'est difficile, je trouve, même de sortir du truc et de dire, c'est vraiment dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont ça divertit que ça fonctionne, en fait, je pense. Il y a pas de grande thématique, il y a pas de volonté, en fait, de on tacle un peu l'industrie pharmaceutique, mais enfin, c'est très rapide. C'est très rapide. Il y a vraiment, en fait, il y a pas de sous-thème sous-jacent, et c'est vraiment l'histoire d'un homme qui essaye de montrer qu'il est innocent. Qui est traqué, et en fait, si tu veux, qui essaye de sortir de l'étau dans lequel
oui, il est. Oui, c'est vraiment un film qui est basé sur son rythme. Et c'est vrai que cette double enquête joue beaucoup dessus, puisqu'en fait, c'est comme une boule de neige, c'est-à-dire que tu passes de Sam Gérard à. Il n'y a pas de. Sam Gérard, c'est l'antagoniste, mais c'est pas le méchant. Ces deux personnages ont un but noble, un rétablir la vérité, et l'autre on lui dit tu dois attraper un fugitif. Il y a d'ailleurs cette scène extraordinairement célèbre qui a été. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que cette scène-là, à la base, dont je vais parler, à la base elle faisait 5 pages de dialogue. Et au moment où ils l'ont tournée, d'ailleurs ils l'ont tournée dans 2 endroits différents, puisqu'ils l'ont tournée en chant à l'endroit qu'on voit dans le film et en contre-champ dans un studio, pour avoir une maîtrise un petit peu de ce champ contre-champ. Et il y a cette scène célèbre où, en fait, il y avait 5 pages de dialogue pour expliquer pourquoi, machin, etc. Et ils ont tout balancé en discutant, parce que c'est un film très organique sur la façon dont il a été fait, que je trouve très intéressante. Et l'un de ces exemples, c'est ça, c'est qu'ils ont dit, mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça pour définir le personnage. Il a juste besoin de dire, quand Harrison Ford dit « j'ai pas tué ma femme », de lui répondre « j'en ai rien à cirer, I don't care ».
C'est pas mon boulot, en fait. Mon boulot, c'est de t'attraper. Et donc, c'est la scène, en fait, justement, où ils se croisent pour la première fois et que, en fait, Harrison Ford lui échappe en sautant. Bon, spoil, hein, mais c'est quand même très connu, c'était même dans la bande-annonce, hein, pour le coup. Il saute, en fait, dans le barrage. Alors, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est la scène à la Die Hard. C'est-à-dire, ça revient au saut de McClane à la fin, quand il est sur le building, quoi. C'est-à-dire, comment faire, en fait, là, je suis dans une situation...
Dans une impasse. Ouais.
Voilà. Comment est-ce que je fais? Je fais le saut de la foi, on va dire, si tu veux. La seule distinction, je dirais, c'est que la façon dont Jeb Stuart avait écrit cette scène, d'ailleurs, dans Die Hard, en fait, si tu veux, c'est qu'il avait vraiment écrit quelque chose qui faisait qu'on sentait que, en fait, il y avait un danger, qu'il pouvait pas vraiment s'en sortir, alors que là, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, dans Die Hard, il saute, il est accroché, mais en fait, à la lance d'incendie, le truc se décroche, s'accroche dans le rebord du haut du building, bascule, donc en fait le personnage a un sursis pendant une seconde et en fait il doit reprendre ses souffles, en fait tirer à travers le truc. Enfin, il y a tout un système en fait pour te montrer qu'il s'en sort mais que c'est compliqué. Alors que là c'est vrai que dans Le Fugitif en fait il saute et il s'en sort. Tout le monde se pose la question derrière, c'est pas possible qu'il soit vivant. Et du coup c'est écrit dans l'intrigue que le seul qui croit qu'il est encore vivant c'est précisément c'est Samuel Gérard, le personnage de Tommy Jones.
Mais du coup en fait c'est vrai que t'as cette scène là où désespéré
un poil moins réaliste du coup c'est ça que
oui,
je veux
oui,
dire
elle est, c'est à dire qu'il n'y a pas une personne au monde qui pourrait s'en sortir
ouais, voilà.
Mais du coup effectivement quand il saute c'est un acte désespéré d'un homme qui est au sens littéral coincé. Et donc il fait ce saut et en même temps c'est une scène qui sert à définir beaucoup plus Gérard que Kimball. Puisque effectivement, c'est en fait, vous allez me draguer ce fleuve, et s'il a été bouffé par les poissons, vous me trouvez celui qui a fait le repas. Enfin, c'est le mec, il a une tâche, et quoi qu'il arrive, il est obsédé par cette tâche. Et ça, c'est un truc que moi j'adore sur le film, c'est ils ont travaillé sur la définition des personnages à travers l'action, puisque comme tu l'as dit, le film ne s'arrête jamais. Il y a un truc super intéressant
à la mesure de ce qui se faisait dans les années 90, parce qu'aujourd'hui, un film qui s'arrête pas. Bon, d'un côté, on peut dire c'est peut-être Mad Max Fury Road, par exemple, on va dire, dans le cadre du cinéma d'action, mais ça peut tout aussi bien être, dans l'esprit des gens, un Fast and Furious 7 ou je sais pas quoi, tu vois. Donc,
c'est vrai. C'est un film qui ne s'arrête jamais, mais dans lequel il y a quand même des pauses, puisque si ton rythme il est tout le temps à 11, au final, t'as pas de rythme.
Voilà.
Donc là effectivement, t'as du 10, t'as du 9, t'as du 7, mais le film avance toujours. Il n'y a pas une scène, en fait, où tu pourrais dire celle-là, je l'enlève. En tout cas, je trouve pas. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est sur l'intro. L'intro, aujourd'hui, est montée dans un flashback. C'est-à-dire que tu vois en montage alterné ce qui est en train d'arriver au Dr. Kimball et en même temps ce qui est arrivé à sa femme. Et en fait, dans leur premier montage, ils avaient fait un montage qui durait un quart d'heure, 20 minutes, je crois, de l'introduction de sa femme, de Richard Kimball, machin, etc. Et puis ils ont regardé, ils ont fait, bon, c'est non seulement on a un premier problème, c'est que c'est un peu mou, et on a un deuxième problème, c'est que du coup, le film fait 2h20 et on perd une séance par jour. Et alors ça, ouais, ça ne plaît pas au producteur. Et c'est le monteur qui a eu l'idée de dire, écoute, je vais te faire tout ça avec des espèces de flashbacks façon négative pour que ça aille plus vite et que ce soit plus rythmé.
Mais ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un des problèmes du film, pour moi, en tout cas dans l'entrée du film. C'est-à-dire que, parce que le film, en plus, la temporalité du film est un peu particulière. Donc, comme tu l'as résumé, voilà, il y a ce premier meurtre, en fait. On le condamne à la chaise électrique, il s'évade. Il s'est passé plus ou moins un an, en fait, entre la mort et le moment où il commence à enquêter pour trouver qui est l'assassin de sa femme, et le fameux manchot en question, et quel est le complot qui se rame derrière. Mais du coup, en fait, c'est une temporalité qu'on ne sent pas vraiment, parce que, déjà, elle n'est pas clairement énoncée. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'à mon sens, finalement, l'amour qu'il porte à sa femme, on le perd, je pense, là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on le sent pas assez. Il y a très peu d'interaction entre elle et lui, en fait, si ce n'est que dans un ou deux flashbacks très rapides. Et du coup, pour moi, c'est un petit cœur émotionnel qui manque un petit peu dans le film et qui, en plus, alors il se trouve que je trouve que ça se voit. Je m'étais déjà posé la question à l'époque, en fait, quand j'ai vu le film, c'est qu'il y a le personnage de Julianne Moore qui réapparaît dans le film. Enfin, qui apparaît dans le film, qui est censé l'aider à un moment donné, et ça, c'était complètement coupé aussi. Oui. Apparemment, ils avaient une liaison.
Oui.
Voilà, ce qui fait qu'en fait,
ils l'ont coupé pour les bonnes raisons d'un autre côté. C'est justement qu'ils se sont dit, ils ont tourné les scènes et tout, hein. C'était le love interest. Et ils ont dit, mais en fait, si on donne un love interest à. Le studio insistait, ils font un love interest. Et ils ont eu gain de cause en disant, ouais, mais si on lui donne un love interest, en fait, on perd. C'est un mec qui veut venger la mort de sa femme, qui veut comprendre. S'il s'amuse à être dans les draps d'une autre femme, ça perd un peu de cette force-là.
Certainement, mais le truc, c'est que du coup, en fait, tu sens quand même qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire, tu te dis, mais. Et c'est pas le fait que Julianne Moore était déjà plus ou moins une vedette montante en fait à l'époque. Hein. C'est vraiment en fait tu sens qu'il y a une emphase qui est mise sur le personnage. Tu la remarques en fait, tu remarques ce personnage, tu remarques l'actrice et tu te dis comment ça se fait qu'on la revoit jamais en fait. Si tu veux, c'est très étonnant.
Je trouve que tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que tu remarques l'actrice. Tu remarques pas le rôle. Tu vois oui, Julianne Moore, oui, tu fais putain, c'est Julianne Moore quand même. Mm. Comment ça se fait que dans un aussi petit rôle
à l'époque elle était pas connue en fait.
Bah, quand je l'ai vue la première fois, moi en 93, hein, donc
tu savais qui c'était.
Je savais pas qui c'était.
Ah oui, ouais.
Comme si j'ai juste.
Non, non, mais elle avait pas fait les trucs qu'ils l'ont fait connaître, c'est genre Shortcuts, tous ces films-là, et c'était après encore.
Voilà, donc au final, quand je revois Le Fugitif aujourd'hui, je vois ce défaut entre guillemets parce que je vois Julianne Moore, mais l'actrice, c'est pas fondamentalement le rôle. Quand tu disais qu'il manque un petit lien émotionnel avec sa femme, avec merde, j'ai oublié son prénom, peu importe. En fait, moi, j'ai trouvé...
Hélène Kimball, tu veux
dire. Kimball, ouais. Voilà. J'ai trouvé ultra intéressant...
J'ai regardé mon antisèche.
Voilà, c'est ultra intéressant le choix qu'ils ont fait de Cella Ward, qui a effectivement un rôle de 5 minutes, qui est très, du coup très, très difficile à tenir, parce qu'en 5 minutes, tu dois globalement la trouver hyper attachante. Et c'est pas facile, elle a juste 2-3 scènes. Ce geste où elle jette des pétales de rose derrière elle, d'un l'air de rien, ou ce moment où, quand son mari vient la chercher, elle fait « Mais non, heureusement que t'es là, parce que j'avais plus de blagues. »
Oui, oui, mais ça marche bien. Ça.
C'est des moments qui créent le personnage en 5 minutes, et je trouve ça... Alors, c'est pas un personnage ultra, ultra fouillé, mais non, quand elle meurt, je fais oh, « C'est injuste, ouais. Il faut qu'il trouve. »
Après, alors voilà, le truc, si tu veux, c'est que ce qu'il y a aussi d'intéressant, je trouve, avec le film, c'est sa forme. Et jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros film, Le Fugitif, il faut le dire. Mais en fait, c'est un film qui a été fait très très vite aussi. C'est-à-dire qu'en gros, d'après ce que j'ai compris, Andrew Davis a été validé par Harrison Ford après qu'il ait vu un premier montage de Piège en haute mer.
Ce qui est normal.
Ouais, je sais pas si. C'est étonnant parce que disons que jusque-là. Si tu veux, Andrew Davis l'avait tourné avec des acteurs qui sont quand même un peu plus, tu vois, prestigieux que Steven Seagal. Hein, soyons honnêtes, malgré notre amour pour Steven Seagal, rien ne me regarde pas comme ça. Tu vois.
Je te juge.
Voilà. Je sais pas, tu vois, quand il tourne avec Gene Hackman, là, tu vois, excuse-moi.
Ok, mais, ça va, tu t'en sortais.
C'est quand même un peu plus prestigieux, tu vois. Et ce qui est étonnant, en fait, si tu veux, c'est que... Mais c'est vrai qu'il faisait des petites séries B jusqu'à cette époque-là. C'est ouais. Là, c'était son premier... Piège en haute mer, Under Siege, c'était sa première accession à un budget conséquent de studio, quoi. Même s'il avait fait des films pour la MGM et tout ça avant. Et en gros, je pense qu'il a été validé sur ça. Or, la forme, quoi qu'on en dise, en fait, entre les deux films, est assez différente. Et elle est notamment assez différente parce que... On est en 93... À l'époque, il n'y a pas encore eu les Jason Bourne, les films comme ça, etc. etc. Il n'y a pas eu cette espèce de revival dans l'idée, si tu veux, qu'on puisse filmer caméra à l'épaule un film, etc. etc. Par contre, il y a une espèce de logique assez naturaliste dans la façon en fait, dont les choses sont présentées aux gens, avec la volonté, à mon sens, qui fonctionne relativement bien eu égard au charisme d'Harrison Ford, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est un acteur extrêmement charismatique, quoi, qui rend les choses... Voilà. C'est vrai que par moments, quand tu regardes le film, quand il essaye de se faire passer pour un homme de ménage ou je sais pas quoi, et qu'il rencontre un kidam qui travaille sur place et qui fait « Ah bon, bah, vous êtes là pour nettoyer, d'accord ?» tu vois. Puis lui, en fait, il en profite pour faire son enquête en fait, et chercher des trucs. Moi, t'as toujours un peu le sourire de te dire... T'imagines le personnage, tu vois, de la personne qui lui dit bah, « Entrez, allez-y, faites votre travail », tu vois, qui se dit « Il est sacrément charismatique, cet homme de ménage ».
D'un autre côté, il est sacrément charismatique, ce charpentier, puisque c'est ce qu'il était avant de travailler sur des
bien
films.
Bien sûr, donc, mais disons qu'en fait, si tu veux, ça fonctionne pour un Indiana Jones, ça fonctionne pour un Star Wars, tu vois, si tu veux, quand à l'époque où il n'était pas encore très très connu. Mais là, c'est vrai que là, tu vois Harrison Ford. Et d'ailleurs, je trouve que le film en joue un peu, d'ailleurs, avec cette logique-là, parce que c'est pas vraiment Harrison Ford tel que tu le connais au début du film. Il a sa barbe, tu vois, il a son truc, etc., etc. Et puis d'un seul coup, quand l'enquête commence à vraiment démarrer, qu'il s'est sorti, on va dire, de sa passe, de son impasse, en fait, si tu veux, avec la prison, avec tout ça, bah, d'un seul coup, il se rase, et là, tu fais « Ah bah oui, c'est Harrison Ford. »
Et d'ailleurs, le studio voulait pas la barbe, parce qu'ils ont dit « On paye pas un mec, je crois que c'était déjà 20 millions à l'époque. Hein. » En tout cas, c'était un paquet de pépettes.
Ouais, non, c'était pas 20 millions, mais c'était beaucoup. Oui.
Voilà, et ils ont dit on paye pas un mec comme Harrison Ford pour pas voir sa gueule et la foutre derrière des poils, quoi. Et Andrew Davis a été malin. Il a répondu il y a pas de problème. Si vous voulez pas qu'il ait la barbe au début du film, il l'aura pendant tout le reste, parce qu'en fait, faut pas qu'on le reconnaisse. Et le studio a fait bon, ok, il peut avoir la barbe au début.
Ouais, et en fait, le truc, c'est que. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ces histoires de barbe, c'est un truc célèbre. Il y avait un film de Barry Levinson, je crois, en fait, qui a été fait dans les années 2000 avec Robert De Niro. Sur en fait cet inside cette anecdote d'insider en fait sur le fait que t'avais sauf que ça concernait pas le fugitif, ça concernait Alec Baldwin sur à couteau tiré avec comment il s'appelait
Anthony Hopkins
tu vois, le film de Lita Maori. Et en fait, c'est une anecdote connue à Hollywood où, en gros, si tu veux, Alec Baldwin voulait avoir une barbe et le studio vous disait « Mais tu peux pas avoir une barbe ». Et ça a été une guerre, en fait, entre Baldwin et le studio. Ils en ont tiré un film et c'est Bruce Willis qui joue le rôle de Baldwin, plus ou moins. Ils se sont inspirés de l'anecdote. Ils jouent pas le rôle de Baldwin, mais ils jouent ce rôle-là, quoi. Et pour dire quand même que c'est des problématiques assez basiques que les mecs se disent, quoi.
Par contre,
Thor, il a un gros bide et personne dit rien. Quoi.
Si, moi, je ressemble au Dieu du Tonnerre et je suis un peu content. Mais là, maintenant, oui. En fait, tu parlais de cinéma naturaliste, mais en plus, il y a des trucs... c'est un film qui a été fait très très vite, et du coup, ils ont utilisé des raccourcis qui sont assez étonnants. Par exemple, la scène d'interrogatoire qui est au tout début du film, où Harrison Ford, on lui dit « Mais en fait, on pense que t'as tué ta femme », ou les deux flics lui disent. Ils l'ont tourné, mais alors... en impro total, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans la salle, Harrison Ford ne connaissait pas les questions. Donc il a réagi et il a joué en fonction, en pure réaction, par rapport à ce que lui disaient les deux flics en face, qui sont d'ailleurs des flics dans la vraie vie, ce qui est assez marrant, et qu'on retrouve dans quasiment tous les films de Davis. Et ils ont tourné
la
scène.
Putain. Ah, ouais. D'accord.
Et
tu vois, c'est bien, je fais des émissions, j'apprends des trucs.
C'est rare hein, que t'apprennes des trucs parce que bon, je le sens même un peu IMDB le mec. Hein, il est capable de vous citer la date de sortie d'un film le bon mercredi.
Vas-y.
Et c'était une scène qu'ils ont tournée vraiment comme ça. T'as ce moment-là qui est pour moi. Aussi, une autre façon de montrer comment ce film, c'est que parfois les dieux du cinéma se penchent sur un film et balancent de la poudre de magie. Et quand t'as un casting qui est, à mon sens, parfait, quand t'as une scène comme ça où ils disent, comment on tourne ce truc-là, on va essayer ça. Quand ils disent, à la fin, toujours en parlant de naturalisme, il y a une poursuite qui se passe pendant la Saint-Patrick. Il y a la Saint-Patrick à Chicago.
Oui, ça, c'était complètement improvisé aussi.
C'était complètement improvisé. Les mecs, ils ont foutu Harrison Ford en plein milieu de la vraie parade. Ils ont foutu Tommy Lee Jones en plein milieu de la vraie parade. Donc, quand t'as des gens qui se retournent pendant le film parce qu'il y a des. Parce que y a, c'est pas parce qu'il y a un mec qui marche.
Il est vachement charismatique, cet Irlandais. Voilà.
Et c'est assez fou. C'est-à-dire que, du coup, moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, la vache, ils ont carrément peint le fleuve en vert, parce que le fleuve est entièrement vert, ouais, comme les couleurs de Saint-Patrick. Non, ils l'ont pas fait. C'est la ville qui l'a faite parce qu'ils ont tourné pendant la vraie parade. Ils ont juste attrapé un steadicam et basta, ils y vont, quoi.
Mais quelque part, en fait, le truc qui est intéressant avec ce film-là, justement, c'est que moi, je suis pas un grand fan du style du film. C'est-à-dire que, tu vois, je préférais toujours quelque chose de plus, dynamique et chiadé. Parce que c'est aussi, mais en fait, l'aspect pris sur le vif fonctionne. Et surtout, on a du bol, finalement, que ce soit pas, justement, parce que 10 ans après, en fait, ça aurait été filmé caméra à l'épaule et ça aurait été n'importe quel Jason Bourne ou un truc comme ça. Et à mon sens, en fait, ça aurait beaucoup plus, desservi le propos parce que ça serait vraiment rentré dans une esthétique générale, quoi. Alors que là, je pense que cette esthétique-là, ou cette entre guillemets non-esthétique, si tu veux, a beaucoup servi le film et le succès du film, c'est-à-dire vraiment l'idée d'être impliqué, de croire au truc. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques moments, tiré par les cheveux, on va dire, d'un point de vue... Alors, au cinéma, j'entends, c'est normal, tu vois, c'est la suspension d'incrédulité, mais en fait, qui sont quand même impressionnants. À l'époque, par exemple, la scène du train, la scène, en fait, justement, de l'évasion, quand t'as toute la scène dans le camion de prisonniers qui se sont transférés, que le camion atterrit sur des rails de train, que le train arrive à ce moment-là et qu'en fait Harrison Ford saute au dernier moment dans un même plan, en fait, si tu veux, avec une transparence, si tu veux, le truc numérique, ça fonctionne, moi je trouve, du tonnerre, quoi. Aujourd'hui, l'effet se voit un petit peu plus, tu vois, mais à l'époque, c'était vraiment impressionnant.
C'était saisissant, d'autant que ils n'ont pas utilisé de maquette, ils n'ont pas utilisé d'image synthèse parce qu'on était un peu trop tôt pour ça.
C'est une maquette, le train, non?
Oui, le train, c'est pas une maquette, ils ont fait ils ont pris un vrai train qu'ils ont envoyé sur les Roses, quelque part en Caroline, parce que pour le coup, ça a été, cette partie-là du film a été tournée en Caroline, et pas à Chicago.
Oui, d'ailleurs, t'as raison, parce qu'il paraît que c'est encore une attraction, le déraillement.
C'est possible.
Là, place, là-bas, ouais.
Mais oui, ils ont fait dérailler un vrai train. Donc en fait, il y a l'incrustation d'Harrison Ford, qui elle, évidemment, est fausse quand il court devant le train aussi. Mais le reste de la séquence, c'est ce qu'il disait, c'est, pour eux, c'était la plus grosse scène du film parce qu'ils pouvaient pas la rater. Il y avait pas de deuxième prise, quoi.
Oui, c'est ça.
Ça coûtait une bonne partie du budget. Ils faisaient dérailler un train. T'avais des mesures de sécurité de partout. T'as des caméras qui s'en sont pas sorties. Hein, paix à leur âme, parce qu'elles nous ont quand même offert de beaux plans. Ouais, c'est une scène qui est. Enfin, à l'époque, c'était incroyable de voir ça sur un écran.
Oui, oui. Et puis, en plus, il y avait ce truc. Alors, moi, le capital sympathie. Moi, on a beaucoup parlé de Die Hard au début, même si, en fait, en vrai, les deux films ne se
ressemblent assez peu.
Voilà. Et puis, c'est pas de ce niveau-là, évidemment, pour moi, hein, en tout cas. Donc, j'aime bien le film, si tu veux. Mais surtout, ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'était coincé entre deux films. Enfin, en fait, une période un peu. Étrange, je trouve, dans la carrière d'Harrison Ford. C'est-à-dire que moi, en fait, sa reprise du personnage de Jack Ryan, j'aime pas du tout.
Sur Jeu de guerre aussi.
Sur Jeu de guerre, notamment, plus encore que Danger immédiat. Danger immédiat, je préfère encore le film, si tu veux, à comparer les deux, quoi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres problématiques. Hein. C'est-à-dire que, en fait, quand tu connais un peu les trails, quand tu sais comment ça s'est passé, à la base, Harrison Ford devait être dans Octobre Rouge. Mmh. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un peu chier McTiernan, tu vois, sur le truc. Si ça s'est pas fait, ils sont allés chercher Sean Connery. Parce que justement Harrison Ford voulait le personnage de Jack Ryan et il a essayé de le faire un lobbying pour faire virer Alec Baldwin a tenu et en fait quand il a été question de lancer Jeu de guerre je crois McTiernan et Baldwin qui ont dit nous on a des racines irlandaises, on n'a pas envie en fait de les montrer comme des méchants, ce film là ne nous intéresse pas, on aimerait en adapter un autre, et c'est là où Harrison Ford est rentré en ligne de compte en disant moi je vous le fais. Et du coup a récupéré le rôle qu'il voulait 2 ou 3 ans auparavant. Et il y a tout un espèce de jeu politique comme ça en interne, je veux dire, qui déjà moi je trouve ne rend pas le personnage très sympathique, même si je pense que ça se joue avec beaucoup d'acteurs comme ça qui ont un pouvoir, qui le font. Hein, ça, je vais pas dire le contraire. Mais en plus, je trouve que lui-même se faisait plus vraiment chier, quoi. C'est-à-dire que en gros, je le trouvais pas terrible là-dedans, je trouvais pas terrible dans Présumé Innocent, dans tu vois ce genre de film en fait. Et à propos d'Henri, tu vois, c'est un peu chaud quand même.
En fait, tous ces films-là, mis à part Jeu de guerre, qui est... enfin, il y a rien à sauver dans Jeu de guerre. J'ai beau essayer, j'ai beau adorer Harrison Ford, il y a aucun film où je me dis oh là là, il joue mal. Par contre, là où je te rejoins, c'est que
il se fait pas chier. Quoi.
Dans Le Fugitif, j'ai l'impression qu'il est impliqué. Vraiment.
Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, et puis il y a ce truc en fait, c'est-à-dire que en fait, ce que je voulais dire pour revenir à tout ça, c'était, si tu veux, c'était aussi, c'est pas seulement qu'il est impliqué, mais c'est qu'il est sympathique. C'est-à-dire que son charisme reste intact vis-à-vis de, c'est-à-dire tu te dis pas forcément, ah, c'est Indiana Jones, tu vois, mais c'est Harrison Ford, quoi. Tu te dis, putain, c'est le, l'acteur que j'aime, parce qu'il faut quand même rappeler aussi un truc, c'est-à-dire que c'est peut-être oublié aujourd'hui pour pas mal de monde, même si, si tu veux, les films restent, tu vois. Mais Harrison Ford, c'était littéralement le héros de notre enfance. C'est-à-dire que c'était le mec qui était Han Solo et Indiana Jones. Quoi. Et donc, du coup, même si aujourd'hui, ben, c'est Indiana Jones 4 et Han Solo dans un film de merde, je veux dire, le truc, c'est que dans une suite de merde, je veux dire, voilà, c'est, ça a beaucoup contribué à baisser la qualité, enfin, l'appréciation qu'on pouvait en avoir.
C'était une légende à cette époque-là, voilà, il n'y a pas d'autre mot.
Et le fait de voir Le Fugitif, si tu le retrouvais. Ouais. C'est Harrison Ford.
Et d'ailleurs, c'est quand même un des rares films d'action, c'est pas le seul, mais c'est un des rares films d'action quand même qui a été nommé plusieurs fois aux Oscars.
Alors ça, c'est un des problèmes que j'ai avec le film.
Qu'on a remporté.
Il y peut rien, quelque... enfin, je pense qu'il y peut rien. C'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de lobbying pour arriver à ce truc-là. Mais ça m'a vraiment étonné. C'est-à-dire que je m'étais dit, vraiment, c'est ça le film d'action que vous allez... Parce qu'il n'y en a pas, en fait, de film d'action qui est nommé. Mm-hmm. Genre, même Steven Seagal était très, très surpris de ne pas être nommé pour terminer l'année suivante.
On l'était aussi.
Voilà, c'est ça. Mais, non, mais blague à part, il y avait une vraie... interview, je me rappelle avoir vu une vraie interview que je recherche ardemment depuis, parce qu'un jour je l'utiliserai dans un épisode de Stéroïdes, quoi, de Steven Seagal qui dit oui, l'Académie des Oscars ne refuse en général les films d'action, mais je pense qu'il y a une chance que Terminé soit nommé.
Et si on avait été à l'Académie, on aurait voté pour lui.
Voilà.
Mais donc Harrison Ford n'a pas été nommé, même pas nommé, oui, et d'ailleurs il l'a assez mal pris. À l'époque, il n'était pas content, hein, mmh. et Tommy Lee Jones a eu l'Oscar du meilleur second rôle.
Il était en lice déjà, parce que l'année d'avant, il était nommé pour JFK, pour son rôle dans JFK, en second rôle aussi. Et en fait, donc c'était attendu, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un comme Tommy Jones, qui était vraiment en train d'exploser, de devenir une superstar à ce moment-là...
Il y a aussi une anecdote... Excuse-moi, t'interromps. Une anecdote super rigolote, c'est Joe Pantoliano, une espèce de voleur de scène absolument génial que j'adore. Dans le film, il va être blessé à un moment, et donc, quand il est sur la civière, il fait des grands gestes... Puis Harrison Ford qui va le voir, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu gigotes comme ça ?» Et Pantoliano lui fait « Mais t'es fou, s'il y a une suite, il faut que les gens sachent que je suis en vie, ok ?» Ouais. Donc je bouge sur ma civière, parce que je veux pas que les gens pensent que je suis mort.
Et d'ailleurs, il est pas dans la suite.
Et t'as Harrison Ford, le regarde et fait « Mon gars, il y aura pas de suite. » Parce que je veux pas qu'il y ait de suite. Ouais. Et l'anecdote est incroyable parce que s'il y a eu une suite, et Harrison Ford n'est pas dedans.
Et évidemment, et en plus, l'autre truc, c'est que c'est surtout ça démontre en fait cette suite. Alors moi, on va pas en parler forcément parce que déjà, j'ai pas revu le film depuis des années, hein, sur cette suite, là, U.S. Marshall, quoi. Mais en plus, moi, j'ai vraiment pas aimé à l'époque où c'est sorti.
C'est vachement bien.
Pareil, tu n'es pas le seul. Rafik aussi me dit ça. Me disait ça en tout cas à l'époque.
Je pense honnêtement que Rafik et moi avons entièrement raison. Mais je peux me tromper, hein. Mais je pense que vous avez entièrement raison.
C'est une possibilité. Je vous l'accorde si vous voulez. Mais en tant que grand patron de Stéroïdes. Non, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout que cette suite, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle démontre l'énorme popularité du personnage de Tommy Lee Jones, en fait.
Oui, mais enfin, elle démontre plein de trucs. Il y a effectivement cette popularité-là.
Pour que même le studio se dise, on peut lancer une suite sans Harrison Ford, c'est pas de problème, on y va.
Parce que c'est vraiment la bonne décision de dire, mais en fait, l'histoire de Richard Kimble, elle a été réglée dans le premier film. Le deuxième film serait juste une prolongation, une suite, une séquelle basique. C'est la bonne décision.
Ils ont tué Julianne Moore.
Mais c'est un miracle de l'avoir prise, cette décision, effectivement, parce que tu te dis...
Je pense qu'ils s'étaient un peu acculés, mais on va dire que... Voilà, c'est-à-dire que... Mais après, c'est quand même la démonstration qu'ils sont prêts à mettre un budget très conséquent pour une suite du Fugitif qui a beaucoup moins bien marché, en l'occurrence.
Ouais, qui a quasiment pas marché du tout.
Voilà, bon, je pense que c'est une bonne affaire.
Alors qu'il y a Joe Pantoliano,
et Tommy Lee Jones et Robert Downey Jr. et Wesley Snipes et Irene Jacob.
Et Jacob.
Voilà, donc voilà. On fera peut-être un épisode de Stories un jour ou pas.
Si, on peut.
Ouais. Je sais que tu l'avais mis dans ta liste.
Ouais.
Mais voilà. Et après, le truc, c'est que oui, en fait, c'est vrai que le truc, c'est que le film a été aussi, enfin, s'est fait très très vite et sorti très très vite aussi. C'est-à-dire que la promo du film s'est faite d'une certaine manière que, en gros. Je crois qu'ils ont tourné genre en mars, avril, mai. Ils étaient encore en train de tourner. En août, il est sorti. Donc, montage très, très condensé. C'est là, moi, où je te dis que je trouve des fois, justement, cette idée de couper en fait, le début. En soi, pourquoi pas. Mais je trouve que les flashs... Les flashs
négatifs ne sont pas les plus heureux du monde.
Ça ringardise un peu le film, moi, je trouve. En fait.
Je suis assez d'accord.
Voilà. Mais après, voilà. Et c'est un film, effectivement... Alors, d'ailleurs, comme ça, parce que c'est un film que je ne vois pas souvent, contrairement à toi, vraiment efficace. fonctionnel efficace quoi. Non mais c'est vrai, c'est ça, c'est un divertissement de luxe.
Je trouve que c'est un divertissement de super luxe, parce que je suis d'accord avec toi, ça reste un divertissement. T'en changes pas changé en tant qu'être humain, mais t'en sors pas changé en tant qu'être humain.
Non, et puis même la face du cinéma n'en sort pas changé, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, dans la comparaison avec Die Hard, disons, tu vois, c'est-à-dire que t'as plein de gens qui nous diraient oui, mais Die Hard non plus en fait, c'est pas, il y a pas,
il a,
y a pas
il de a, grande thématique,
mais sauf que par contre, Die Hard, au-delà même du fait qu'il a été copié, il a une forme, si tu veux, qui a vraiment donné le là du cinéma d'action pendant des années. Quoi.
C'est vrai, Le Fugitif a mis à la mode les adaptations de séries télé, mais c'est moins important parce que c'était juste une mode. Mmh. Maintenant, voilà, moi, c'est un film que vraiment je trouve très très bon. Comme je te dis, pour moi, il y a l'effet du cinéma où on met de l'improvisation, de l'écriture avec des mecs qui sont quand même costauds, des acteurs qui sont exceptionnels, des scènes qui fonctionnent, de la réalité, de la mise en scène à travers le rythme. Donc il y a énormément de Steadicam, qui est un truc qu'on perd un peu aujourd'hui, alors que moi j'adore le Steadicam, ramenez-moi le Steadicam et arrêtez l'épaule. C'est un film...
C'est juste de travail. Hein.
Ouais, c'est un film que je revois, pas tous les ans non plus, mais de façon régulière, et à chaque fois, c'est ce genre de film... que j'adore, c'est tu tombes par hasard dessus à la télé, et moi quand ça m'arrive, bah, je me dis « Ah, je regarde 5 minutes et je regarde en entier », ça marche à tous les coups.
Il y a un point dont on n'a pas parlé, qui est le chef opérateur,
ouais.
Michael Chapman,
ouais.
qui nous a quittés quitté
il y a pas longtemps,
voilà, et qui était notamment le chef-op de Scorsese, etc. Qui, bon là, c'est pas son travail le plus représentatif, moi je dirais, non. Quoi. Mais c'était quand même intéressant de voir quelqu'un, en fait, si tu veux, qui a justement un œil aussi esthétique à la base, en fait, s'obliger à justement, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est correct, mais downgrader, en fait, si tu veux, son image pour...
Oui, on pourrait presque dire qu'il a fait du moche pour que ça ressemble à un film gris et triste, parce que l'un des trucs d'Andrew Davis, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il tourne en extérieur, à Chicago, et en général en hiver. Donc les gens dans ces films, ils ont froid. Mais alors, ils ont froid, et ça se voit. Quand tu vois Harrison Ford qui sort de la flotte en plein hiver, alors il est d'accord, il est en Caroline, mais enfin, globalement, il devait faire 3 degrés, quoi. Mmh. Les mecs, ils sont gelés, et ils jouent pas à ce moment-là. Et c'est super fort, et Michael Chapman, c'est vrai qu'il a adapté sa photo pour lui donner, pour que t'es froid avec Harrison, en fait. Il y a pas de problème, dans ce film, tu te les gèles.
Alors, on se les gèle dans Poursuite ?
Absolument, moi je suis bouffé par le froid dans Poursuite avec.
Bon, celui-là, attends, si tu veux faire US Marshall, on fait pas Poursuite. Hein. Moi je te préviens tout de
suite. Ah bon, on fait US Marshall, tant pis, c'est mieux.
Voilà. Parfait. Bah oui, Andrew Davis, on en a pas trop parlé, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément. Enfin, c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément le film. C'est-à-dire que c'est son plus grand succès.
Oui.
C'est probablement.
De loin.
Probablement, objectivement, son meilleur film. Subjectivement, c'est Under Siege. Non, c'est Nico, pardon. Tu vois. Mais.
C'est objectivement son meilleur film. Voilà. Non.
Et en tout cas, c'est celui pour lequel il reste. On va dire. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'en parle pas tant, parce que finalement, à la fin, même malgré tout ce qu'on a dit et ce qui est vrai, tu vois, c'est-à-dire l'idée que ça soit vraiment, que ça vienne de lui, en fait, cette approche naturaliste du film, du projet, quoi, et de la façon de le traiter, c'est-à-dire lire le scénar de cette manière-là, se dire, OK, on va partir dans cette direction-là, bah, c'est pas quelque chose qu'il a forcément refait à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que vraiment, même les autres films, même Poursuite, il y a du numérique à gogo, je me rappelle notamment...
À gogo, enfin, non. Il y a
une scène quand même une scène d'explosion nucléaire, voilà. Totalement irréaliste.
Pas vois, du tout. Il y a Keanu Reeves qui va plus vite qu'une explosion nucléaire à moto. Je vois pas ce qui te pose un problème. C'est tout à fait crédible.
Qu'à moto
non, c'est Keanu Reeves, d'accord. C'est Keanu et Rachel Weisz.
Parce que c'est tellement irréaliste que ça aurait pu être l'explosion nucléaire qu'à moto.
Ça aurait été sympa en même temps.
Qui reste au milieu, parce que, bref.
Donc, mais c'est le seul numérique. Sinon, t'as aussi beaucoup ce traitement de gens qui se les gèlent, vraiment. Hein, c'est,
Oui, mais je me rappelle d'un truc aussi avec une explosion à la fin, dans le truc où ils font sauter le petit... je crois que les gens qui ont vu le film, parce que là, moi, j'arrive même plus
voilà,
à...
Voilà, les trois personnes qui l'ont vu, ouais. et la personne qui l'a aimé, c'est moi. Mais en tout cas, voilà, oui, Andrew Davis a eu son petit moment, son plus grand moment, c'est Le Fugitif. Mais c'était un artisan que j'aimais bien, il a un peu disparu des radars.
Ouais, comme beaucoup de gens de cette époque-là.
Voilà, comme un Peter Iams, il a aussi disparu. Il y en a eu trop, des comme ça, qui ont disparu. Moi, s'il ressort un film un jour, je pense que je serai client. Maintenant, c'est vrai que le dernier dont je me souviens, c'est Coast Guard avec Kevin Costner. J'adore pourtant Kevin Costner, c'est pas son meilleur.
Le truc avec Andrew Davis, c'est surtout qu'il s'est un peu grillé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Poursuite pour lui, il a fait Poursuite pour se racheter, si tu veux, une conduite au box-office, après justement avoir fait un film de jumeaux avec...
Andy Garcia,
que j'ai même pas vu. Qui est pour le doux, enfin moi je l'ai vu, c'est une comédie, enfin je l'ai vu à l'époque, quoi. C'est une espèce de comédie dramatique, si tu veux, et bon, vaut mieux qu'il fasse des films d'action, effectivement, quelque part. Quoique, en fait, comme moi, j'aime pas trop Poursuite, voilà. Mais disons qu'en fait, c'était vraiment, il l'a fait pour se racheter.
Tu l'as pas vu depuis longtemps, si tu le revois, tu verras la qualité.
À l'époque, où Keanu Reeves était donc une grosse promesse du cinéma d'action aussi. Hein.
Poursuite,
il est resté finalement, Poursuite, mais en fait, pas à cause de ça, quoi.
Globalement, c'est un calcul de producteur. Hein. Alors, on a vu Speed, le mec, il est trop cool dedans, puis on a vu Fugitif, ça a rapporté plein de pépettes. Bah, on prend le réalisateur du Fugitif et le mec de Speed et on fait qu'il court vite. C'est bien, non?
Voilà. Voilà, on appelle ça Poursuite.
On appelle ça Poursuite.
Alors que c'est Chain Reaction.
Chain Reaction, voilà. Mais bon, là,
grand film oublié.
Exactement.
Voilà.
Pour conclure, je dirais juste que si vous voulez voir le film, il est disponible en Blu-ray.
Oui, ça,
facilement. Ouais. Je vous conseille malgré tout l'édition américaine, qui est désonnée, hein, donc elle est visible sur n'importe quel lecteur, parce que le master est bien meilleur. Il a été refait pour les 20 ans du film, je crois, ou les 25 ans, l'un des deux. Et en plus, il y a plein de bonus super intéressants.
Le Blu-ray, ça serait le Blu-ray, oui, c'est vrai.
Il y a plein de bonus super intéressants, donc édition américaine. Voilà, c'est très facile à voir, très facile à obtenir. Je crois qu'elle n'est pas très chère. Et pour moi, elle en vaut vraiment la peine. Voilà.
Merci, monsieur Julien Charpentier.
Ben, merci à toi et merci à tous.
Et merci Alain Mercier.
Merci Alain à la technique,
n'est-ce pas?
C'est son nom de famille, à la technique, ou pas?
À la technique, c'est son nom de famille. Alain Mercier, c'est son prénom. Et merci à tous, en fait, qui nous avaient écoutés. Merci à ceux qui ont tipé du jusqu'ici pour nous soutenir. Alors, c'est tipeee.com avec 3 E et le mot-clé, c'est Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes habituelles, c'est-à-dire SoundCloud. Toi, t'écoutes sur quoi, toi?
Moi, j'écoute sur YouTube, tout bêtement.
Toi, t'écoutes sur Winamp.
La private joke que personne ne peut comprendre. Mais...
Bah, c'était tellement old school, quoi.
C'est vrai.
Voilà. Si Winamp proposait des podcasts, tu nous écouterais là-dessus.
Sans doute.
Voilà. YouTube, SoundCloud, donc Google Podcast, Apple Podcast,
Apple,
tout le tralala. Ouais. Voilà, quoi. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.